Public, et c'est pas la réunion de prière, mais du fait que vous n'entendez pas, et là, et le fait que Maggie ne peut pas monter, donc on le fait en bas. Alors j'ai préféré me mettre assis que là, parce que déjà que je suis tremblant, au moins assis, ça m'évitera de trop bouger. Ah, non, mais là, c'est la question de qu'on puisse finir les travaux. Alors, je vous propose peut-être, on va remettre cette étude devant le Seigneur, et peut-être qu'il y a un ou deux sujets de prière. Est-ce que vous auriez un sujet de prière tout particulier? Bon, ben non, pas vraiment. Ah, un sujet de reconnaissance, très bien.
Que tu sois là, c'est un sujet de reconnaissance.
Voilà, on peut penser aussi à ceux que peut-être ils passent par des moments difficiles. Hein, on peut penser à eux. Et on peut remettre aussi ces moments devant le Seigneur, que le Seigneur conduise cette étude. Hein. C'est lui qui en est le maître. Hein. Donc on veut s'appuyer sur lui. Je vais peut-être demander à Benjamin si tu veux prier. Amen. Alors, je vais un peu faire comme Jean il a fait la dernière fois, distribuer des feuilles peut-être. Voilà, c'est juste le plan d'étude que nous irons ce soir, et avec une ou deux questions. Voilà. Il devrait y en avoir assez. Non, non, mais je crois qu'il devrait en avoir une vingtaine de faits, donc je ne pense pas qu'on soit 20. Alors, vous avez dans les feuilles, voilà, le plan, hein, le plan de l'étude qu'on va avoir. Dans les premiers versets, c'est Dieu qui... Il en manque un.
Non,
il en manque pas.
Il en a trop là, nous on en avait trois.
Ah oui, oui, d'accord.
C'est pour les retardateurs.
Ouais, très bien, merci. Donc on voit le plan d'étude qu'on va parler. C'est bon, Dieu s'adresse à Élie dans les premiers versets. Hein. Ensuite, on va voir le discours d'Achab avec Abdias. Et en troisième point, rencontre d'Élie avec Abdias. Et pour terminer, c'est la rencontre d'Élie avec Achab. Alors je dis Achab, bon, je sais qu'il y en a qui disaient Achab. Bon, moi j'ai l'habitude, quand je le lis, je dis Achab, donc c'est la même personne. Hein. Hein, Achab, Achab, c'est exactement la même personne. Alors je vous propose peut-être on va lire, hein. On va lire quand même ce chapitre de 1 à 19. Hein. Et... enfin, si vous avez une grosse voix, ben, 3 ou 4 peuvent le lire, qu'on se mette bien dans le contexte. N'hésitez pas à commencer.
Devant la table, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla se présenter devant la table. famille était grande à Saint-Henri et un frère qui appelait Abias, chef de sa maison. Or Abias craignait beaucoup l'Éternel, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de terre et d'eau. Acab dit à Abias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin de la barque qui descend. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir, à Acab à la seule sur le chemin et Abias à la seule par la mer du chemin.
Comme Abias était en route, voici Élie le rencontra. Abias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Acab qui me fera mourir ? L'Éternel est vivant. N'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume ou la nation que l'on ne t'avait pas encore trouvé. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Acab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'est-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua le prophète de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Acab.
Abias étant allé à la rencontre d'Acab, l'informa de la chose. Et Acab se rendit au devant d'Élie. À peine Acab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jette le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. »
Très bien, merci. Donc là, dans ce chapitre 18, bon, on a ce récit que nous venons de lire, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs personnages qui sont mentionnés. Et il y en a, enfin, je ne sais pas si vous en avez retenu. Bon, il y a Élie, bien sûr. Oui. Abias. Et il est parlé aussi, il est rappelé aussi de Jézabel. Hein. Alors, un petit rappel sur Élie, parce que c'est vrai qu'on a eu une coupure là, puisqu'on a eu la réunion de prière, on a eu la réunion aussi de maison. Donc, juste un petit rappel. Hein. Vous vous rappelez ce que Jean et Josias nous avaient dit, le nom d'Élie, ce que ça voulait dire. Eh bien, c'était... bon, moi, je l'avais pris les notes, donc je les ai devant moi, c'est plus facile. Mon Dieu est l'Éternel. Hein. Mon Dieu est l'Éternel. Hein. Et on sait que c'était quand même un des plus grands prophètes, et peut-être le prophète par excellence. Et donc, juste peut-être un petit rappel sur ce qui est un prophète. On va peut-être prendre dans Deutéronome chapitre 18. Alors, Deutéronome chapitre 18, au verset 19, il nous est parlé de ce qu'est un prophète. Je vais le lire. Et si quelqu'un... Deutéronome chapitre 18, verset 19... Hein, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandée de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce sera quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Donc juste un petit rappel, est-ce qu'était vraiment un prophète? Un prophète est celui que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique justement le message que Dieu donne. Élie était donc un prophète de Dieu. Et Dieu lui avait mis ses paroles justement dans sa bouche. Et tout ce qu'Élie disait, eh bien, ça s'accomplissait parce que c'était un prophète de l'Éternel. Et ce que l'Éternel dit, ça s'accomplit. Alors, on ne va pas rappeler tout ce qu'Élie a fait, mais voilà, en gros, rappelons-nous, remettons-nous un peu dans le bain. Et maintenant, justement, on va au sujet d'Achab, là aussi. La dernière fois qu'on avait fait nos études, on a échangé quelques mots et sur Achab. Achab était le roi d'Israël. Et j'ai regardé dans le dictionnaire biblique, vous savez combien de rois ont précédé Achab ou Achab. Alors, je m'étais penché justement, c'est une question que je m'étais dit, mais c'est le 11e roi. Et je crois que des fois, c'est bien aussi de connaître les rois d'Israël, ceux qui ont été aussi selon la volonté de Dieu, ceux qui n'ont pas suivi la volonté de Dieu. C'est toujours bon de connaître un peu l'histoire, et je vous avoue qu'avant, ça ne m'intéressait pas trop, mais maintenant, j'aime bien voir quel roi suivait le Seigneur. Donc voilà, bon, Achab était le 11e roi d'Israël. On sait très bien que le premier roi, et ça, tout le monde le connaît, hein, on sait que c'est Saül, hein. Et après David, Salomon, etc. Mais revenons sur Achab. Achab veut dire, là aussi, je ne sais pas si ça, vous vous rappelez ce qui avait été dit, qu'est-ce que voulait dire Achab, son nom? N'hésitez pas, hein, je n'entends pas trop. Un frère du père, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, cela nous l'avait été mentionné par nos frères. Achab avait épousé Jézabel, hein, et sous l'influence de son épouse, Achab avait abandonné complètement l'Éternel pour servir, bien sûr, ses dieux étrangers, les dieux de Baal. Donc voilà un peu, on ne va pas revenir dessus sur Achab, mais on connaît un peu le personnage. On a aussi nommé Abias, hein, et, donc... Abias, j'ai regardé là aussi encore dans le dictionnaire, il y a 12 noms d'Abias dans la Bible, alors des connus, des moins connus, mais il y en a 12. Et Abias veut dire serviteur de l'Éternel. On a lu qu'il était le chef du palais royal et intendant du roi Achab. Abias craignait Dieu dès sa jeunesse, il nous l'a dit. Il était un adorateur de Dieu. Et c'est vrai qu'il avait témoigné de son amour pour Dieu parce qu'il avait protégé 100 prophètes contre justement les attaques d'Achab et de Jézabel. Alors je me suis posé la question, moi, est-ce que Abias est celui qui a écrit le livre d'Abias dans les petits prophètes? Alors bon, j'ai voulu chercher un peu, mais je vous avoue que, bon, je ne sais pas, je crois que c'est un auteur inconnu. Donc je m'abstiendrai de dire si c'est lui ou pas, mais enfin, peut-être que si vous savez, si vous avez d'autres, enfin si vous le savez, moi je ne sais pas. Mais enfin, on ne va pas s'attarder là-dessus, peu importe, hein, qui c'est qui a écrit Abias. Ensuite, c'est vrai que nous avons parlé de Jézabel. Alors, bien sûr que nous n'allons pas nous attarder sur Jézabel, c'est pas le thème de ce soir, hein. Ce n'est, mais c'est vrai que Jézabel était l'épouse d'Achab. Elle était fille de, alors je vais peut-être pas bien le prononcer, mais était la fille de Baal, qui était roi des Sidoniens. Hein, ça, on peut le voir dans un roi au chapitre 16, verset 31. Jézabel, c'est vrai, était une fervente, adoratrice de Baal, et elle fit tuer, comme on va le voir plus tard, et elle a fait tuer des prophètes de l'Éternel. Et quand elle apprend que Élie, lui aussi, a fait tuer 400 prophètes d'Astarté, eh bien, disons, elle veut tuer Élie. Et on connaît la suite de Jézabel, elle est vraiment dramatique. Dans 1 Roi au chapitre 21, bon, on va peut-être pas le lire, mais l'Éternel annonce la fin de Jézabel, et la fin de Jézabel, on le voit un peu plus tard, et dans 2 Rois au chapitre 9, vraiment elle a une fin affreuse, parce que elle est jetée par la fenêtre, elle est foulée par les chevaux, elle est mangée par les chiens, et on ne retrouve que les pieds, le crâne, et enfin, une fin terrible, quoi. Et c'est vrai que même Jean nous avait rappelé que Jézabel, elle est mentionnée dans l'Apocalypse, hein, dans le chapitre 2. Alors voilà, enfin, c'est un petit point quand même, que c'est bien de connaître des fois les personnages. Maintenant que nous avons fait un peu ce tour, hein, eh bien, on ne va peut-être pas revenir sur le chapitre 17, mais rappelez-vous qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là. On avait vu que... il y avait une chasseresse qui durait, là, à ce moment-là c'était pareil, qui durait depuis 3 ans. Élie devait se cacher et pour continuer la suite, on sait que Dieu l'avait envoyé à Sarepta pour rencontrer justement la veuve. On ne va pas revenir là-dessus, mais... c'était une très belle, enfin, on avait été vraiment enrichi par cette étude-là, vraiment, vraiment bien. Donc, et Élie devait se cacher, hein, il avait été nourri par les corbeaux, là aussi on en avait parlé. Puis, il est envoyé, donc, à Sarepta, et là, on va attaquer, voilà, vraiment notre, on va revenir dans notre texte. Donc, c'est vrai que la famine, elle est grande. Et Dieu s'adresse à Élie. Hein, c'est ce qu'on a vu au verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu... au verset chapitre 19. Hein, je suis dans Deutéronome. Alors, un roi. Chapitre 18. Hein, donc, on voit au chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la troisième année. Alors, donc c'est dans les premiers versets, hein, quand Dieu s'adresse à Élie. Et la question que j'ai posée là, après ce que Dieu lui dit, qu'est-ce que fait Élie ?
Il obéit.
Il obéit, exactement. Et là aussi, c'est vraiment... un encouragement pour nous d'être obéissants à la parole de Dieu. Et donc, à côté, j'ai marqué aussi dans Jacques, au chapitre 5, verset 17, si quelqu'un là, s'il peut le lire. Il y a plusieurs choses qu'il fait. Il obéit, et c'est frappant dans Jacques, au chapitre 5, verset 17.
Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, qu'il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.
Oui, alors, on a vu que Élie obéit, et ce qui m'a frappé, c'est que vraiment c'était... Il nous l'a rappelé qu'Élie était un homme de la même nature que nous, mais il prie. Il prie, c'est tout simplement, pour moi, on voit l'importance de la prière. Et on ne doit pas minimiser la prière. Là, il est dit qu'Élie priait avec insistance. Et on voit plusieurs hommes de Dieu comme ça qui ont prié, par exemple... J'avais marqué dans Néhémie aussi, au chapitre 4, verset 1, il est dit « Néhémie pria jour et nuit avec insistance ». Encore voilà une personne qui prie avec insistance. Il y a Daniel, il y en a d'autres bien sûr. Daniel dit au chapitre 9, verset 3 « Je tourne ma face vers l'Éternel afin de recourir à la prière ». La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est l'effusion du cœur devant le Créateur du monde. Et Dieu écoute nos prières quand elles sont sincères. Et Dieu aime les requêtes qui sont prononcées avec droiture. Dans Jacques, au chapitre 5, il est dit « La prière fervente du juste est une grande efficace. » Et dans Jean, au chapitre 5, verset 14, il est dit aussi « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Alors, je me suis posé la question, nous qui sommes de la même nature que Kélie, est-ce que ma prière, elle est faite avec insistance ? Est-ce que ma prière, elle est faite avec foi ? Parce que parfois, enfin, des fois, je me suis aperçu que ça m'arrive de prier, et tout en priant, je suis en train de penser déjà comment je peux m'en sortir. Alors, enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. Et je crois que Dieu entend nos prières. Mais si on cherche nous-mêmes déjà une sortie, c'est pas prier avec foi. Prier avec foi, avec insistance, c'est vraiment de s'en remettre au Seigneur, de savoir que là où on ne peut pas, eh bien Dieu, il intervient. Et je trouve ça, c'est important de prier avec foi, avec sincérité, avec insistance et selon la volonté de Dieu. Et Élie, il priait comme beaucoup d'autres hommes. C'est un encouragement pour nous aussi à la prière. Alors, on va continuer. Dans le verset 2 d'un roi au chapitre 18, bon, la famine, elle est grande, et Élie obéit, il part se présenter vers Achab. Verset 3, Achab appelle Abdias, son intendant, qui est chef de sa maison, et les versets 3 à 4 nous disent que Abdias craignait beaucoup l'Éternel, parce qu'il avait caché 100 prophètes et les avait nourris. Alors, je ne sais pas la raison pourquoi il nous est dit 50 par 50, peut-être c'était plus facile, je ne sais pas. Je ne me suis pas trop attardé là-dessus, mais peut-être que comme c'est une étude, est-ce que vous voyez quelque chose là-dessus? Pourquoi 50 par 50? Moi, je me suis dit, bon, c'est peut-être plus facile, surtout que c'était fait en cachette et il ne fallait pas... C'était contre la volonté d'Achab. Donc voilà, bon. Enfin, et au verset 5, Achab donc, s'adresse à Abdias et lui demande d'aller chercher un endroit où il pourrait trouver de l'eau, de l'herbe, pour ses chevaux et ses mulets. Alors, il y a quelque chose qui est frappant là. Alors, je ne sais pas si dans ce qu'il est dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe de ce que Achab demande à Abdias? D'aller trouver de l'herbe, d'aller trouver de l'eau pour ces bêtes.
Les animaux passent avant les
hommes. Et les animaux passent avant les hommes. Exactement. Ce qui est frappant, c'est que Achab, qui est le roi d'Israël, en principe, quand on est roi, quand on est président, quand on est au pouvoir de quelqu'un, c'est surtout pour se préoccuper des personnes. Mais Achab, lui, se préoccupe plus de ses bêtes que de son peuple. Où est l'amour? Où est l'amour de son prochain? Quelle différence ici entre Abdias qui craignait Dieu et a permis de cacher, de nourrir 100 prophètes à l'insu du roi. Et ça, bon, nous on le lit, mais ça ne devait pas être simple. 100 personnes en pleine sécheresse, où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas de nourriture. Mais non, le roi, lui, se préoccupe des animaux plutôt que des êtres humains. Alors la question que l'on peut se poser, à qui on doit obéir? Abias était serviteur d'Achab, roi d'Israël, et il était aussi serviteur de Dieu, puisque Abias veut dire serviteur de Dieu. La question que l'on peut se poser, qui servir en premier? Dans Matthieu, au chapitre 6, on sait qu'il nous est dit que nul ne peut servir de maître. Abias, on se met un peu dans le contexte. Il a Achab qui est son, son roi, mais il aime Dieu. Qui il doit servir? À qui il doit obéir? Pardon? Non, c'est pas au même niveau, puisque bon, lui le... Non, non, c'est sûr, mais des fois, nous, on est peut-être confrontés, nous-mêmes, des fois, à être en face de, d'une autorité, ça dépend ce qu'il va nous dire, quelle position on pourrait prendre. Est-ce qu'il est bon d'écouter ce que la personne qui a l'autorité, est-ce qu'il est bon de lui obéir? Ou est-ce que par rapport, si c'est contraire à Dieu, donc des fois on peut être pris, partagé, quoi. C'est une question qu'on peut se poser, puisque dans la Bible il dit « Nul ne peut servir de maître hein ». Donc, qui je sers en premier? Et qui j'aime le plus? Est-ce que j'aime le monde ou Dieu? Et je crois que c'est Paul qui nous dit comme ça que vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand c'est selon la volonté de Dieu, bien entendu. Donc c'est une question qu'on peut se poser. On peut être confronté à des situations, peut-être même avec un patron, tout simplement. Hein, c'est quand même l'autorité aussi. S'il nous dit des choses qui ne va voler quelque chose là, pour moi, à nous de... Hein, on peut être aussi pris entre deux feux. Alors, on poursuit notre texte. Abias est en route pour trouver un lieu, parce que bon, il va chercher de voir s'il peut trouver de l'eau et de l'herbe. Et qu'est-ce qui se passe? Élie et Abias se rencontrent, verset 7. Alors au verset 7, comme Abias était en route, voici Élie le rencontra. Abias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi mon Seigneur ?» Et Élie, au verset 8, lui répond, « Oui, oui, c'est moi. » Et en lisant et en relisant ce texte, je me suis dit, « Mais, tiens, Abias va être un peu en difficulté. Élie va mettre Abias dans une drôle de situation. Relisons les versets 8 à 14. Est-ce que quelqu'un veut le lire, de relire le verset 8 à 14 ?
Lui répondit, c'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas, et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va! Dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur et vivant aujourd'hui, je me présenterai devant Akab.
Merci. En lisant ça, je me suis dit, bon, c'est vrai que ça ressemble un peu peut-être à la situation que nous avions vue au chapitre 7 par rapport avec la veuve, quand Élie avait demandé de lui donner à manger. Et elle se dit, bon, mais si je te donne à manger, bon, je vais te faire ça, mais après, nous mourrons. Là, il me semble que Abias est un peu dans le même cas. Tu me dis que tu veux te présenter devant Élie, mais vu les circonstances, comment ça se passe, il va me tuer aussi, je vais mourir. C'est vrai que Achab recherchait déjà depuis longtemps Élie. Hein, il le recherchait. Dans un roi au chapitre 17, verset 5, cela nous est dit. Donc, Abias craignait que l'Esprit de Dieu enlève Élie et que la colère d'Achab, bien sûr, tue Abias. Donc, enfin, je ne sais pas, mais on peut comprendre. On peut comprendre Abias quand on est dans cette situation. Hein. Il est presque pris entre deux feux. Hein. Le premier, il est pris parce que, vous savez, dans Romains, il nous est dit, au chapitre 13, verset 1, hein, il est dit d'être soumis aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc, il était soumis aussi à ce que le roi Achab disait. Et deuxième point, c'est qu'il est dit dans Actes au chapitre 5, verset 29, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Justement, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Parfois, nous pouvons nous trouver dans cette situation. Et je le répète, qu'est-ce que nous faisons? À qui obéir? Dans ces versets 8 à 14, on voit que Abias s'étend longuement. Il raconte, il dit à Élie tout ce, voilà, tout ce qu'il a fait. Hein, mais Élie lui dit, bon, je veux le rencontrer. Dans son discours, on voit que, dans ce que nous avons lu, Abias prononce 5 fois le nom de l'Éternel. Au verset 10, il dit, l'Éternel est vivant. Verset 12, l'Esprit de l'Éternel te transportera. Et à la fin du verset 12, il est dit « Cependant, ton serviteur craint l'Éternel en disant ce qu'il a fait avec les 100 prophètes. » Il parle des prophètes de l'Éternel. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a aussi une différence entre Élie et Abias. Élie, lui aussi, reconnaît que Achab était le roi d'Israël. L'autorité du moment. Abias craint Dieu, mais il est pris entre deux feux. Il obéit, bien sûr. Il va faire ce que le roi lui dit, d'aller chercher de l'eau et tout. Hein? Il a peur pour sa vie. Mais au verset 15, on va le relire. Mais Élie lui dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Achab. Alors, je ne sais pas si vous avez la version Semeur. Est-ce que quelqu'un a la version Semeur? Ouais. Tu veux le lire?
Verset 15, c'est ça.
Ouais.
Et il lui dit, mais c'est vrai que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au service duquel je me tiens et vivant, je t'assure que je me présenterai aujourd'hui même devant la famille.
Ouais. Et j'aime beaucoup cette version. J'aime beaucoup cette version parce qu'il est dit, comme ça, aussi vrai que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au service duquel je me tiens, est vivant. Élie n'a pas peur de se présenter devant le roi, car il se tient devant Dieu. Et ça, j'ai trouvé, ça aussi, c'est pour ça que j'ai marqué en début thème principal, se tenir devant Dieu. Je trouve que c'est très important, le fait de se tenir devant Dieu. Il n'a pas peur. Regardez dans Ésaïe au chapitre 51. Ésaïe 51. Au verset 12 à 15. Voilà ce qu'il nous est dit. Ésaïe 51, verset 12 à 15. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu tremblerais constamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Je trouve que ça, c'est important. Élie n'a pas peur de se présenter devant le roi, car il se tient devant lui et il sait que c'est Dieu qui garde. C'est moi et moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? C'est un encouragement pour nous de savoir que l'important c'est de se tenir devant Dieu et de ne pas avoir peur. Parce que la Bible nous dit, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi ? C'est un encouragement. Et Élie lui dit ça à Abias parce qu'il lui fait comprendre que non, je vais y aller me présenter. Je vais y aller me présenter devant Achab. Ici, il donne à Abias la sécurité qu'il va bien se rencontrer Achab. Parce que c'est vrai que Abias avait peur. Parce que déjà Dieu lui avait dit de partir pour échapper à Abias à Achab. Et Abias avait peur. Il se dit, mais mince, si il n'y va pas, ben je risque ma vie. Donc, Élie lui donne cette sécurité. Et je crois qu'il y a aussi ce mot qui dit l'Éternel est vivant, Élie. Et je pense que c'est important aussi ces paroles, que je me disais que ces paroles puissent vraiment retentir dans ma vie. L'Éternel, il est vivant. Et ça, nous ne devrions pas l'oublier. Il est avec nous. Ça doit être un encouragement, car des fois nous hésitons, car nous avons peur. L'Éternel est vivant. Dieu est vivant aujourd'hui encore. Et c'est vrai, comme on l'a dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alors je crois que ça devrait renouveler nos forces. Se tenir devant Dieu résume toutes nos activités. Se tenir devant Dieu résume aussi toute notre attitude morale, notre façon d'agir quand on se tient devant Dieu. Eh bien, Élie se tient devant Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Il n'a pas... C'est vrai qu'on voit que Abias énumère beaucoup de choses, tout ce qu'il a fait. Parce que Élie, lui, ne dit pas tout ce qu'il a fait. Parce qu'il sait que Dieu sait tout, Dieu voit tout et n'oublie rien de ce qu'il se fait pour sa gloire. Alors, je me dis des fois que c'est un exemple pour nous à ne pas des fois se vanter. Parce qu'il nous arrive des fois aussi peut-être comme Abias, et c'était juste ce qu'il avait fait. C'était très bien. Mais Élie ne le juge pas. Mais je me disais que parfois, moi, quand on fait des choses pour le Seigneur, on a tendance aussi à faire comme Abias. Oh, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On veut, peut-être, je ne sais pas si c'est de l'orgueil ou quoi, mais voilà, on aime bien quand on fait les choses. Mais Élie ne se vante pas. Il sait que Dieu voit tout. Et ça, je crois que c'est un exemple pour nous aussi de ne pas se vanter. De ne pas se vanter de dire, ben moi je fais ceci. Tu vois, là, oui.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une recherche d'un allié, si je puis dire. Abias cherchant comme allié, Élie, en lui expliquant qu'il a protégé les prophètes du Seigneur.
Oui, aussi, oui. Mais oui.
Parce que vis-à-vis d'Akab, il est quand même un traître, puisqu'il a empêché la mort de 400 prophètes, par 50 par 50. Donc il est vraiment, effectivement, pris entre le marteau et l'angle. C'est-à-dire, entre le marteau et la faucille, mais bon,
Oui, non, mais ça peut être, oui. Ça peut être un appel au secours aussi. C'est vrai que la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, oui, il peut y avoir plusieurs points. Moi, le point que j'ai retenu, c'est que des fois, voilà, je me suis dit, tiens, contrairement à Élie, lui, bon, il ne dit rien. Abias dit tout ce qu'il fait. Et moi, je me disais, tiens, c'est personnel. Je me disais, tiens, il y a des fois, peut-être que moi aussi... Des fois, je m'avance, j'ai fait ceci ou je fais cela, et je me dis que bon...
C'est en ça que le fait de dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, c'est aussi...
Voilà,
c'est l'entraînement. Ce dicton a été utilisé de Jean Cross, y compris par la Wehrmacht, pendant la guerre.
Ah oui. Oui, tout à fait, oui.
Après, ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que tout le monde n'est pas pareil. On n'est pas à égalité. il y a Élie et Élie, et Abdias et Abdias. Je veux dire, par là, quand je vois ce que certains hommes de Dieu ont fait et la foi que Dieu leur a donnée, je veux dire, mais Dieu les a appelés, les a équipés, mais ça a été la volonté de Dieu pour eux. Mais je ne peux pas les imiter, je ne suis, suis pas dans la même
tout à
catégorie.
Fait.
Enfin, ça arrive. Et Dieu avait dit à Abdias, tu vas aller devant Élie, Dieu avait dit à Élie, tu vas aller devant Akab et voilà ce qui se passera. Et Dieu lui avait révélé à lui des choses qu'il n'a pas révélées à Abdias. Donc c'est ça. Et on voit bien même dans une église, certains savent aller très loin dans un domaine et l'autre très loin.
Ça nous fait rappeler.
C'est intéressant.
Ça nous fait rappeler que un peu la parabole des talents. Hein, c'est voilà, Dieu donne cinq talents à un, un autre à un, à trois. Donc voilà. Mais c'est vrai ce que voilà. Ça nous fait rappeler aussi que bon, l'Église c'est un corps et que bon, chaque membre a des fonctions différentes. Hein, et Dieu se sert que ça soit du plus petit ou au plus grand, mais je crois que ce que moi j'ai retenu là, c'est surtout restons humbles. Restons humbles quand nous voulons œuvrer pour le Seigneur. N'allons pas nous vanter, tiens, moi je fais ceci ou cela. N'allons pas juger non plus les uns et les autres. S'il y en a un qui fait moins, c'est parce que il est différent. Peut-être je sais pas quelle heure, j'ai pas pris ma montre, alors je sais pas.
Moins le quart,
oui, faut qu'on avance. Hein. On va relire le verset 16 à 19. Si quelqu'un veut le lire, c'est la rencontre d'Élie maintenant avec Achab.
Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals.
Oui, on peut peut-être juste s'entamer, mais tu peux continuer un peu.
Oui. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel.
D'accord. On va s'arrêter là. Donc là, on voit maintenant, donc après ce dialogue entre Élie et Abdias, on voit maintenant que cette rencontre avec Élie et avec Achab. Alors, j'avais marqué dans la question, quelle est la cause de son aveuglement? Donc là, c'est clair. Hein, quelle est la cause de l'aveuglement d'Achab?
Déjà, il pense que c'est Élie qui est la cause de la sécheresse.
Voilà, déjà, on voit, il accuse. Hein, il accuse. Il accuse Élie. Et en fin de compte, qu'est-ce que répond Élie?
Il rappelle ce qu'il lui avait dit avant, qu'il avait connu.
Oui, parce que ça avait été dit, oui.
Enfin, ce qui est frappant aussi, c'est voilà un roi qui recherche quelqu'un depuis je ne sais pas combien de temps, de mois ou peut-être d'années. Et maintenant qu'il se trouve face à face avec cet homme-là, ben, il perd tout son courage finalement, puisqu'il obéit à la parole d'Élie. Il fait ce qu'Élie lui dit de faire. Donc, je trouve pas, de la part d'Akab, ça montre son trait de caractère, c'est pas un homme courageux en fait. Il obéit à ses pulsions qui sont très mauvaises, il obéit à sa femme, Jézabel, mais en réalité, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout courageux.
Oui, tout à fait. C'est vrai que on voit aussi son aveuglement. Hein, il est complètement aveuglé. Il accuse Élie des troubles d'Israël. Et là aussi, c'est facile d'accuser les autres. C'est facile d'accuser les autres. En accusant les autres, eh bien, Akab, il veut se dégager de son infidélité, de son idolâtrie. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Oubliant et ne se souciant pas de Dieu, refusant de croire en Dieu, eh bien on accuse Dieu et on le rend responsable. Hein, on le rend responsable des misères du monde. Ce monde est conduit et aveuglé par le diable. Jérémie, dans Jean au chapitre 14, verset 30, il est dit « Le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi ». Élie était étranger au monde d'Achab. Et le chrétien aujourd'hui n'est pas du monde, parce que Jésus-Christ n'est pas du monde. Et nous devons aussi, attention de ne pas être aveuglés aussi par tout ce qui se passe. Nous devons vivre comme étrangers dans ce monde. Dans 1 Jean, il est dit au chapitre 2, verset 15, à 17, hein, on peut le lire peut-être déjà. 1 Jean, chapitre 2, épître de Jean. Chapitre 2, verset 15 à 17. Quelqu'un là, hein?
N'aimez pas le monde,
ouais, vas-y.
De ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On ne fait tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or le monde passe sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Voilà. C'est que celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Et là, je pense que Achab, il est complètement aveuglé. D'ailleurs, Élie lui dit, quand il accuse Élie, il lui dit, alors Élie s'approcha au verset 21. Élie répondit, 18, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. » Donc, on voit bien que la cause de son aveuglement, c'est parce qu'ils ont oublié le commandement de Dieu. Et je pense que nous devons vraiment nous appuyer sur la parole de Dieu, pour ne pas justement être aveuglé, parce que si on cesse de regarder la parole de Dieu, on est vite enclin aussi à nous échapper, hein, et à être aveuglé aussi, à voir des choses que de ne plus comprendre, et devenir aussi aveuglé par ce monde. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il reste 5 minutes pour pouvoir peut-être dire des questions, ou si quelqu'un veut rajouter quelque chose pour compléter un peu ce qu'on a vu. Peut-être que vous avez vu autre chose dans ce qu'on a lu, une autre exhortation, peut-être, si vous voulez la partager. On a encore 5 minutes. Par contre, je voudrais simplement aussi vous dire que, sans vouloir anticiper sur le chapitre, sur la suite de cette étude, hein, juste quelques mots. Nous avons vu qu'Élie a triomphé avec Dieu dans de bien des domaines. Et en se tenant devant Dieu, il a été fort. Mais un peu plus loin, nous allons voir aussi que Élie a fait l'expérience aussi de sa propre faiblesse. Mais Dieu veut lui parler. Et Dieu veut nous parler aussi dans nos faiblesses, parce qu'il nous aime. Hein? Alors ça nous arrive aussi à tous d'être faibles, parce que quelqu'un me... vous savez, j'ai été voir ma tante qui a le Covid, qui a 98 ans, elle n'est pas trop bien, et elle me disait, oh, j'ai commis des faiblesses. J'ai commis, j'étais pas peut-être toujours été comme je voulais l'être, mais c'est une personne qui garde les commandements de Dieu. Et il faut savoir que Dieu a tout accompli sur la croix, que même nos manquements, quand on est vraiment appuyé sur la parole de Dieu, quand on n'abandonne pas ses commandements, quand on ne l'abandonne pas, même nos manquements, Christ il les a payés sur la croix. Et c'est ce que je lui ai dit. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Mais on verra la prochaine fois, l'étude va continuer et il y aura encore de merveilleuses choses à trouver. Alors juste, voilà, peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a lu pour compléter un peu ce qu'on a dit? Est-ce que vous avez vu quelque chose, une exhortation que...
Moi, j'avais une remarque par rapport à ce qu'Alain disait. Il y a une différence entre Abias et
Élie.
Et la différence que je vois, elle est qu'Élie se définit par qui il est, c'est-à-dire ce que Dieu dit qu'il est, il est serviteur. Abias, il se définit par ce qu'il a fait. Et en fait, quand tu as lu dans Ésaïe 51, c'est flagrant, tu as lu « Qui es-tu pour avoir peur de ?» Qui es-tu? C'est finalement comment on se définit dans la vie? Est-ce que c'est parce que Dieu dit de nous? Ou est-ce que c'est parce que les autres pensent de nous ou parce qu'on a fait? Et c'est ça qui m'intéresse dans ce qui es-tu pour avoir peur. Voilà.
Merci.
C'est vrai que la plupart d'entre nous qui voulons aider les gens, qui voulons témoigner, qui voulons peut-être encourager, quand quelqu'un ne va pas bien, il faut surmonter la peur et il faut être dans une sérénité et une proximité avec le Seigneur qui fait que on n'est pas atteint parce que les choses sont inversées. La première phrase du roi, c'est c'est toi qui troubles. En fait, c'est l'inverse. Mais les gens qui ne vont pas bien autour de nous, à qui nous avons à cœur de parler, vont inverser les choses et vont nous porter des accusations. Et si on est fragile, ça nous démoralise, on se défend, et alors là, on a perdu la mission. Et c'est toujours un défi il faut se rappeler, des choses dont eux sont coupables. Alors parfois, même dans des crises, des choses dont certaines personnes sont coupables, eh bien ces personnes-là vont accuser d'autres, alors que c'est elles. Et ça peut nous déstabiliser si on est fragile. Donc cet exemple est très, très intéressant. Et on voit dans le Nouveau Testament aussi les disciples de Jésus-Christ au début de l'Église. Ah, ces gens troublent la vie, ils troublent...
En fait, c'est pas... l'éternel problème de la recherche du bouc émissaire.
Aussi, ouais. Oui, c'est ça. Alors, comme la plupart d'entre nous, on veut donner bonne figure et on veut faire bonne impression, alors quand on entend ces choses-là, ça nous fait d'autant plus mal que c'est faux. Donc, il faut une dose de solidité pour persévérer et passer outre, quoi. Parce que, par définition, les gens qui vont mal renvoient sur les autres leur propre...
Oui, absolument. On reproche aux autres ce que l'on est soi-même, en fait.
Ouais.
C'est ça. Hein. Moi, ce qui est intéressant, juste un petit mot, c'est que aussi, c'est là où on voit qu'il est un homme de la même nature que nous. C'est vraiment insister sur ce que tu as dit en dernier. C'est-à-dire qu'en fait, Élie, on voit un homme fort, courageux, il se présente devant le roi et tout ça, il n'a pas peur. On se dit, waouh, quel homme! En fait, c'est pas Élie. C'est parce qu'il s'appuie sur l'Éternel. Mais la fois où il ne s'est pas appuyé sur l'Éternel, comme tu disais, ça ne va pas lui coûter très cher, en fait. Donc, en fait, ça nous encourage, nous, à se dire. La force n'est pas en nous, contrairement à ce que le monde raconte. La force est en vous, la force est en vous, mais c'est faux. Il y a un cantique. La force n'est pas en nous.
Il y a un cantique.
La force est en Dieu. Oui, si Dieu est en nous, c'est vrai que la force est en nous. Ouais. Mais c'est la force est en Dieu.
Ouais. Il y a un cantique qui dit la force est en Christ. Ouais. Hein. Et puis voilà, je crois que l'importance, c'est pour ça que, bon, je me répète là, mais voilà, il est important de nous tenir devant Dieu. Hein. C'est pour ça que j'ai préféré le verset 15 là sur le semeur, je me tiens devant Dieu. Tant qu'on se tient devant Dieu, les choses sont, c'est là qu'on est fort. Quand on n'est plus devant Dieu, eh bien c'est là qu'on tombe très vite. Voilà, on est, je crois, pile à l'heure. Hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va peut-être terminer par la prière. Gino, tu veux terminer par...
Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est merveilleuse, qui nous enseigne toujours, qui nous éclaire. C'est vrai, Seigneur, ce que tu nous as révélé ce soir, c'est de toujours nous appuyer sur toi, encore une fois. Toujours et encore, parce que nous dévions vite. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que nous avons passés, qu'ils puissent rester dans nos cœurs, que nous puissions les méditer, les garder encore, et qu'ils nous servent. Parce que tu veux nous conduire toujours plus vers toi, et merci pour cela. Parce que plus nous nous approchons de toi, et plus nous découvrons que tu es merveilleux, magnifique, glorieux, trois fois saint, redoutable, et cela nous pousse à nous prosterner devant ta face. Que ton nom soit béni dans le précieux nom de Jésus.
Amen. 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 Bien, voilà, bonne rentrée.